L'autre frère Jérôme Fabio a dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Est-ce que c'est vraiment votre désir que Dieu vous montre? Où vous en êtes? Alors on va lire quelques lectures, on va en faire plusieurs. La première dans Luc, on pourrait en faire une vingtaine, parce que ce sont des textes, bien sûr, vous avez compris, qui se recoupent. Luc chapitre 12, verset 35, c'est une parole du Seigneur Jésus. Luc chapitre 12, verset 35, est-ce que vous m'entendez bien? Luc 12, 35. Une parole sérieuse, bien sûr, comme toutes celles du Seigneur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Voilà un commandement de Jésus. Vous rappelez ce qu'il a dit? Recevez mes instructions. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Que vos lampes soient allumées. Matthieu 5, 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu chapitre 25, verset 10, dans ce que moi j'appelle la prophétie de la parabole des 10 vierges. C'est une prophétie, croyez-moi. Matthieu chapitre 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Voilà ce qui arrivera. Ça, c'est prophétique. Mais c'est terrible. Hein? Alors, un autre texte dans Lévitique, au chapitre 26. Ça ne vous embarrasse pas qu'on lise plusieurs textes? J'espère que non. Un jour, quelqu'un m'avait dit, vous savez, vous nous avez fait lire beaucoup de textes. Mais moi, je trouve que c'est mieux ça, que c'est mieux la lecture que la prédication. Qu'est-ce que vous préférez, vous, la lecture ou la prédication? Tiens. Mais le plus important, c'est quand même la lecture. Lévitique 26, verset 3. Lévitique 26, verset 3. Ça sera un prochain sujet de la formation des pasteurs, ça. La lecture ou la prédication. Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, verset 12, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Exode, juste avant, Exode 25, la confection du chandelier. Bon, voilà, n'oubliez pas le contexte, on est dans la lumière, dans le chandelier, le candélabre exactement. Exode chapitre 25, verset 31. Le chandelier se trouvait où dans le temple? Dans le lieu saint. Regardez bien, Exode 25, 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 des autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. C'était du travail, hein? Imaginez-vous. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Je l'ai souligné cette parole. Vous allez comprendre pourquoi. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Une autre lecture dans le livre de l'Apocalypse. Vous n'êtes pas lassé ? Apocalypse. Le Seigneur écrit à l'église d'Éphèse. Une église qui avait besoin d'une parole, comme nous aujourd'hui. Nous avons besoin d'une parole. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. J'ai parlé sur ce verset il y a quelques semaines, et je pense que c'est bien qu'on le reprenne, ce verset. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je répète, voici celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et une dernière lecture, dans le livre de Zacharie, chapitre que j'ai été poussé à lire pendant plus de 6 mois, tous les jours. Et j'ai compris. Je peux vous assurer que vous avez un pasteur qui ne comprend pas vite. Je ne sais pas comment vous êtes, mais des fois, il faut du temps pour qu'on comprenne certaines choses. Et le problème, c'est que quand on connaît certains textes par cœur, ou quand on a souligné certains versets dans la Bible, c'est un piège. Parce qu'après, quand on ouvre la Bible, on ne regarde des fois que le verset que l'on a souligné. Et on ne réalise pas tout le reste à côté. Moi, bien sûr, j'avais souligné le verset 6. On le lit ensemble, ce chapitre 4 de Zacharie. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. » Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Amen. Le peu que vous avez lu doit vous permettre déjà de comprendre la prédication. L'œuvre de Dieu doit se faire. Elle doit se faire, l'œuvre de Dieu. Elle s'achèvera en tous les cas. Si vous connaissez le texte, le Seigneur a commencé son œuvre au calvaire, et avant, et le Seigneur achèvera son œuvre. Béni soit son nom. Vous l'avez vu, ses mains ont commencé son œuvre et ses mains l'achèveront. Le problème, c'est avec quoi et comment? Et est-ce qu'il n'y a pas des stand-by dans la réalisation de l'œuvre de Dieu? Des temps morts, des temps où Dieu ne peut pas agir. Oui, il y en a. Il y a des temps où le Seigneur ne peut rien faire. Il y a des temps où Dieu ne peut pas marcher dans l'Église. Il ne peut pas marcher dans l'Église. Parce que vous l'avez lu avec moi, le Seigneur marche au milieu des chandeliers d'or. Le Seigneur ne marche pas n'importe où. Le Seigneur marche sur un terrain qui est préparé. Alors à ce sujet, j'en ai parlé à Michael, après la présentation de la Sainte-Seine, il y avait un petit problème. Quand Dieu dit dans Ésaïe 40, préparez le chemin du Seigneur, c'est pas lui qui va le faire. C'est pas lui qui va le faire. C'est à nous d'abaisser ce qui doit être abaissé, de rehausser ce qui doit être rehaussé, de faire en sorte que le chemin du Seigneur soit préparé. Si Dieu crie, une voix crie, préparez le chemin, c'est à nous à le faire. Le Seigneur, il est le chemin. Jean-Baptiste a été taxé par Jésus lui-même comme étant le plus grand homme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a eu le ministère extraordinaire de préparer la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous ? Ça, je vous assure que votre réponse va vous engager. Est-ce que vraiment nous croyons que le Seigneur Jésus peut marcher au milieu de l'Église ? Oui, bien sûr que oui. Il le dit. Il le dit, je marcherai, on l'a lu dans le Lévitique, si vous obéissez à mes commandements, je marcherai au milieu de vous. Si j'ai demandé, par exemple, que tous ceux qui interviennent sur l'estrade soient honnêtes, vraiment dans leur sainteté, c'est parce que cet été, je me suis trouvé dans une église où une personne m'a dit, mais moi, mon mari, il est sur l'estrade et il vit vraiment dans le péché. Il regarde des trucs cochons à la télé ou sur Internet. Et moi, ça m'a brisé le cœur parce qu'en plus, ce gars, quand on lui demandait de prier, eh bien, il le faisait. Vous voyez, cette malhonnêteté, le gars qui n'a pas du tout compris la sanctification dans l'église. Après, on s'étonne, mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas dans les églises? Les gens parlent en langue, mais ça n'a pas l'impression de... Eh bien, oui. Mais parce qu'on se moque de Dieu. Mais on se moque de Dieu. Et justement, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Préparer le chemin du Seigneur. On doit le préparer. C'est quelque chose de sérieux. Chacun d'entre nous, je m'adresse à ceux qui sont baptisés par immersion. À ceux qui, un jour, ont décidé d'accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et qui ont décidé de faire tout pour vivre ce qu'ils ont chanté ce matin, à savoir de donner vraiment leur vie à Dieu. Alors, vous avez vu dans ce texte, là, on n'a pas lu la fin. Si, il l'a lu. Au même instant, sa gloire sera révélée. Vous avez écouté la lecture dans Ésaïe 40 du jeune pasteur. Oui, il y a la manifestation de la gloire de Dieu quand le chemin est préparé. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est des touristes. Ils vont à l'église, ah c'est bien dans cette église, ah c'est, ça me plaît. Mais vous n'allez pas dans une église parce que ça vous plaît. Vous allez dans une église parce que Dieu vous a appelé à être dans cette église et à le servir. Il y a des gens, c'est l'évangile à la carte. Ah moi ça me plaît, j'y vais, ça me plaît pas, j'y vais pas, la musique ça me plaît pas, donc je change d'église. Quelqu'un me l'a dit dernièrement, c'est pas grave, je dis pas ça, ça me vient à l'esprit, c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas grave que je donne le témoignage, ça vous prouve que les gens n'ont aucune conviction. Je pense qu'on doit être là où Dieu nous a placés. Ce matin vous êtes venus dans la maison du Seigneur, est-ce que vous êtes à votre place en étant ici dans ce lieu? Est-ce que vous sentez que vous êtes à votre place? C'est important. C'est important. On prépare l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et on fait les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas du désordre, du péché, de la désobéissance. C'est quelque chose de sérieux. Si on n'obéit pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais vous dire, on va prendre quand même un texte, même si on en a déjà lu beaucoup. Si on n'obéit pas, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, hier je lisais Ésaïe 40 parce que je cherchais des textes pour étudier avec les stagiaires mardi. À savoir... les textes où il est parlé au même instant, parce que c'est quand même une bénédiction quand on voit Dieu qui dit, si vous faites ce que je vous dis, au même instant, je bénirai. Ça vous intéresse que Dieu bénisse de suite? Moi oui, on a assez perdu de temps, je trouve. Alors dans le psaume 81, il y a un texte, moi, qui m'a fait beaucoup de bien, et qui m'a montré l'importance de ce qu'on est en train de partager. Regardez avec moi, psaume 81. C'est un texte, là aussi, où Dieu dit qu'il peut bénir à l'instant. Vous vous rendez compte, si on obéit, à l'instant même, Dieu peut bénir. C'est merveilleux, heureusement qu'il ne fait pas attendre. Alors, psaume 81, verset 12. Il faudrait le lire en entier pour mieux comprendre que Dieu parle et qu'on n'entend pas. Mais enfin bon, verset 13. Verset 12. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. On pourrait mettre l'Église ou Toulouse ou comme vous voudrez. Alors, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien. Quand on n'écoute pas, ça fait peine. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Alors, avant de lire le verset 14, venez avec moi dans le livre des Actes. C'est important, je ne voulais pas faire d'autres lectures, mais ça ne fait rien. Comme je l'ai dit, le plus important, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que la Bible dit. Même si ce que je dis, bien sûr, est dans l'explication des Écritures. Actes chapitre 7, regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous savez, des fois on lit, vous avez lu le livre des Actes? Combien de fois avez-vous lu le livre des Actes? Et vous allez répondre au Seigneur, pas à moi, je ne veux pas savoir, si vous aviez fait attention à ce verset. Actes chapitre 7, verset 42. Bon, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas voulu obéir. Alors regardez ce qui se passe. Des fois on met le diable. Mais regardez bien. Actes 7, 42. Regardez bien, vous êtes d'accord? Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Enfin, vous lirez le contexte et vous comprendrez mieux. Dieu les livra au culte de l'armée du ciel. Hier, bon, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai lu les actes des centaines de fois. Et je peux vous dire qu'il n'y a que hier soir que j'ai réalisé ce qui se passait lorsqu'on n'obéissait pas. Eh bien, Dieu nous livrait. Dieu nous laissait faire. Il nous laissait faire. En préparant ce texte, je pensais à une jeune fille qui s'est convertie ici. Une jeune fille formidable. Elle a fait une expérience, elle est arrivée, elle faisait ses études, elle était chercheure en biologie, elle a fait des études brillantes, une fille formidable, elle a donné son cœur au Seigneur, elle a expérimenté vraiment la repentance, la conversion, et elle a été allée terminer ses études à Montpellier, parce que sa maîtrise de biologie ou son doctorat nécessitait qu'elle aille à Montpellier. Elle m'appelle au bout de, je ne sais pas moi, un an, elle me dit « Monsieur Gau, voilà, comment allez-vous » Tatati, bon, on parle. Et au bout d'un moment, elle me dit « Voilà, monsieur Gau, je vous annonce que je fréquente un garçon. C'est un garçon formidable. Écoutez, monsieur Gau, je vous le croirez, vous ne le croirez pas. Il est mieux que des chrétiens. » J'ai vite compris où elle m'a mené. Ah ben, j'ai dit « Mais c'est très bien qu'il soit mieux que des chrétiens, ça ne m'étonne pas. Au niveau de la moralité, ça se trouve. C'est quand même triste. C'est pas triste qu'il y ait des païens qui aient de la moralité. C'est triste que des chrétiens ne l'aient pas. » Elle me dit « Voilà, bon, mais il est bien, je vous assure, il ne m'empêche pas d'aller à l'église. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah, je dis, moi, ce que j'en pense, c'est que la Bible nous demande de ne pas nous mettre avec un infidèle. On a parlé pendant un quart d'heure et tout. Bon, après, c'est vrai, alors ne le prenez pas mal, ce que je vais dire. Ne le prenez pas mal, mais c'est pour vous expliquer le mélange. Et que Dieu ne veut pas de mélange. Dieu veut de l'or pur. Bon. Elle me dit, voilà, bon, ce cas, c'est qu'il est musulman, mais enfin, bon, lui, il ne m'empêche pas d'aller à l'église. Je dis, écoutez, une fois, et ça, c'est pas par rapport aux musulmans, c'est par rapport aux païens. Une fois qu'il aura ce qu'il a voulu, on en reparlera. Un an a passé, deux ans a passé, et je reçois un courrier de 5 ou 6 pages. Monsieur Gau, je vous appelle pour vous demander pardon. Je suis aux Émirats arabes, cloîtré. Si je vous racontais le courrier, moi j'en ai pleuré. Et voilà ce qui s'est passé. Tatati, après le mariage, il m'a amené aux Émirats. Et si vous saviez ce que je suis en train de vivre, etc., etc. C'est vrai que hier, alors on n'a pas lu le verset 14, mais mes frères et sœurs, vous avez lu le verset 12, le verset 13, « Alors je les ai livrés, du psaume 80, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. » Combien de chrétiens, en plus, avec du toupet, mais avec ce qu'on appelle du culot, ont la bravoure, la bêtise de penser que leur conseil est au-dessus de la parole de Dieu. Et quand on suit ses propres conseils, eh bien Dieu nous livre au péché. Quand il est dit dans Romains au chapitre Dieu, et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour faire homme avec homme des choses abominables, infâmes. Vous connaissez, c'est pas Dieu qui provoque l'homosexualité. C'est parce que les hommes ne veulent pas de Dieu qu'on en arrive à ce stade-là. Et quand je vois aujourd'hui ce que l'on peut dire au nom de la tolérance, ils ont suivi leurs propres conseils. Et on est en train dans les églises de voter, de travailler, des comités patati et patata pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les homosexuels si on ne peut pas leur donner quand même une responsabilité. Alors moi je crois qu'il faut aimer ces gens-là. Il faut les aimer, il faut accueillir tout le monde. Dans l'église de Corinthe, il y avait plein de serviteurs qui avaient été sujets à ce problème. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que Dieu est un Dieu de délivrance. Le péché, c'est le péché. Et que si on commence à essayer, au nom de la tolérance, au nom de l'amour, alors n'en parlons pas là, au nom de l'amour, mais ce qu'on veut, à accepter tout un tas de choses que Dieu condamne, le Seigneur ne nous bénira pas, ne nous attendons pas à ce que Dieu marche au milieu de nous, si on tolère ces choses-là. Je pense que le Seigneur est capable de délivrer un homosexuel, une lesbienne, n'importe quel pécheur. Jeudi dernier, nous avons une jeune fille qui devait d'ailleurs rendre témoignage ce matin, je ne l'ai pas vue, qu'elle a été délivrée de l'alcool, elle a été délivrée du tabac, elle s'est convertie, peut-être elle est là parmi nous. Moi, je crois que... Vous croyez que Dieu est un Dieu de délivrance? Quand Dieu est au milieu de nous, il délivre. On a prié pour Madame Baladin, moi je crois que Dieu l'a guérie. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et quand vous voyez ces textes, on n'a pas écouté, on va à l'église. Moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux. Parce que, moi, je vous assure, j'ai la paix, mais en même temps, ça me fait mal au cœur quand j'entends que des responsables dans les églises, des responsables, vivent dans le péché d'une manière aussi flagrante. Il y a une sœur, une pastorale, une femme de pasteur, hein, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, qui disait qu'une nuit, elle s'est levée, elle a vu son mari sur Internet en train de je ne sais pas comment ça s'appelle, elle a dû planoter sur des sites porno. Une femme de pasteur, un pasteur. Et puis après, non mais soyons sérieux. Seigneur, réveille ton église. Mais je pense que là, il y a un gros problème d'aveuglement. Zacharie, comme je l'ai déjà dit pour plusieurs, Zacharie, il marche avec Dieu. Il avance avec Dieu et Dieu va lui parler. Comme ça sera le cas pour chacun de nous. Comme je l'ai dit dimanche dernier, si nous voulons gagner Christ, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous souhaiterons que la personne de Christ grandisse de plus en plus dans notre cœur. Moi, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'il est de plus en plus méchant, moi, je m'interroge sur ce remplissage. Je m'interroge. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est incontournable, il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Quand quelqu'un est rempli de whisky, eh bien, il ressemble de plus en plus à un ivrogne. Oui ou non ? Voilà, c'est pas la palisse, certainement aurait applaudi. Mes frères et sœurs, Zacharie est arrivé à un moment de sa vie, il a besoin d'une réponse. Et le Seigneur la lui donne, et nous l'avons reçue, et nous avons tous, je pense, appris par cœur, ce verset 6 de Zacharie 4, à savoir que c'était ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu se poursuivrait. Quelles que soient les difficultés, parce que si vous connaissez le contexte dans lequel il a fallu bâtir là, laissez-moi vous dire que tout le monde avait décampé à Babylone, parce qu'à Babylone, ça prospérait, à Babylone, les Juifs, je parle, hein, ça prospérait, alors ils se sont dit, je résume, mais il faut comprendre le contexte. Tout le monde fuyait, ils se sont retrouvés que quelques chrétiens, c'est pour ça que Dieu dit mais qu'ils ne méprisent pas les faibles commencements, ils avaient tous décampé à Babylone, ce qui est l'image du monde. Il y a un pasteur qui m'a appelé il y a quelques jours, il me disait, monsieur Gaud, je ne sais pas ce qui se passe. Les chrétiens s'en vont tous de l'église. Ben oui. Ben oui. C'est exactement ce qui se passe. Vous savez, quand l'huile s'en va, quand on n'a plus de communion avec le Saint-Esprit, il faut bien avoir de la joie. Est-ce qu'on a besoin de joie? Est-ce qu'on a besoin de paix? Et bien, si on ne trouve pas la paix avec le Seigneur, eh bien, vous savez, on n'est pas fou. Si on n'a pas la paix avec Dieu, eh bien, on va la chercher dans le monde. Oui ou non? Est-ce que j'ai inventé quelque chose ce matin? Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand on n'a pas la paix, on va la chercher ailleurs. Quand on n'a pas la joie, on va la chercher ailleurs. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont là dans cette tiédeur. Et Dieu est catégorique. Il marche au milieu des chandeliers d'or pur. Et que nous devons savoir ce que nous voulons, ou nous nous entretenons que du salut, et nous jouons avec cette affaire, c'est surfer dangereusement ça. On essaie de rester chrétien tout en étant dans le monde, regarder l'autre comment il s'en est tiré, c'était limite. Hein. Est-ce que ça n'était pas limite l'autre?
Ça, c'est l'exemple de Lot, le juste. Parce qu'il y a des gens moi, qui m'ont dit, mais Lot, le juste, il avait une vie un petit peu décousue. Il a été sauvé. Mais voyez jusqu'où on en arrive. Non, mais il faut vraiment, il ne faut pas être gêné pour dire un truc comme ça à un pasteur. Mais s'il le dit, c'est qu'il le pense. Lui, Lot, il s'en est sorti malgré sa débauche. Je pense que si vous jouez avec ça, vous risquez de faire partie de ces vierges folles qui ont dit « nos lampes s'éteignent ». Cette semaine, je lisais un livre là, sur l'enlèvement de l'Église. Et en priant ce matin, j'ai eu à cœur de vous donner le témoignage que j'ai lu. Je pense que parce que les trucs sur l'enlèvement, il y a des tas de bêtises pas possibles. Mais ça tenait debout, ça tenait vraiment debout. Et il y a un homme, un vieil homme, c'était en 52, vous voyez, ça fait loin, j'étais pas né. Vous voyez que je suis jeune encore. Ouais. Oui, je suis un jeune encore. J'étais pas né. Un monsieur a reçu, dans un moment de communion avec Dieu, un vieux monsieur. Et ça a duré longtemps. Et puis après, il a redemandé à Dieu de lui redonner cette vision parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il l'écrive. Et c'était tout un tas de scènes qui se passaient à l'enlèvement de l'Église. Écoutez bien. Et bon, je vais vous résumer ce qui est important pour nous. C'est que le dimanche, après l'enlèvement de l'Église, plein de croyants, de chrétiens de nom, qui n'avaient pas été enlevés, se retrouvaient dans les temples, dans les églises, avec le pasteur, qui lui aussi était resté, quelle fidélité, et qui entendait les accusations des chrétiens. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Et pourquoi tu ne nous as pas dit que Jésus allait revenir? Et pourquoi tu ne... Alors, on voit dans ce témoignage une souffrance qui ressort. C'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est très, très, très bien fait. C'est pas un truc superficiel. On voit que ça vient de Dieu. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens, bien sûr, il y en a qui ont été enlevés, mais beaucoup de chrétiens n'ont pas été enlevés. Ils n'ont pas pris au sérieux ces affaires de sanctification. Vous voyez la prophétie des paraboles des 10 vierges? C'est quand même une prophétie archi profonde. Nos lampes s'éteignent. Achetez de l'huile. Mais dans la parabole, le conseil, il ne sert à rien. Aujourd'hui, est-ce qu'il sert ce conseil, acheter de l'huile? Oui, il sert, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Mais imaginez-vous que Jésus revienne. Là, que Jésus revienne. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je ne veux pas. Mais parce que c'est important. Je ne veux pas que vous disiez, ouais, si M. Go, il nous avait peut-être mis la pression, pour prendre l'expression que les gens emploient aujourd'hui, s'il nous avait secoué un peu plus, s'il nous avait dit qu'il faut être prêt. Parce que laissez-moi vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, ça va aller très mal. Aujourd'hui, on parle de crise et on parle que ça ne va pas. Quand vous lisez ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, ce que l'on vit aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais ça frise plus le paradis qu'autre chose. Parce que laissez-moi vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, ça va aller très très mal. Que ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, croyez-moi qu'il va surgir un gars de là-dedans, qui va savoir quoi faire pour resserrer les boulons, croyez-moi. C'est en train de se mettre en place, ce sont les prémices de la colère, et moi je ne peux que vous dire que si nous voulons, en attendant l'enlèvement, si nous voulons voir le Seigneur Jésus se manifester, si nous voulons voir le Seigneur Jésus marcher au milieu de nous, il ne va pas marcher parce qu'on va dire « Seigneur, béni, Seigneur, béni, Seigneur, béni, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. » Vous pouvez prier comme ça pendant 50 ans, ça ne sert à rien. Excusez-moi si je suis un peu raide, ça ne sert à rien. Il vaudrait mieux que tous on se mette à obéir à Dieu, tous à obéir à Dieu, et croyez-moi, que le Saint-Esprit, il sera donné à tous ceux qui obéissent. Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, ça sert à rien. Alors, ça fait super pieux. Le gars, imaginez, je me mets à genoux. Seigneur, envoie le réveil. Donne-nous des âmes. Sauve des âmes. Oh, Monsieur Go, il a le fardeau des âmes. C'est formidable. On a un pasteur merveilleux. Mais est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que ma vie est remplie d'huile? Est-ce que j'aime me tenir dans la présence de Dieu? Parce que quand on prie de tout son cœur et quand on lit la Bible avec des yeux ouverts, je ne parle pas de ces yeux-là, je crois que Dieu, sans que nous en rendions compte, remplit notre esprit de son huile. Et Zacharie va donner cette réponse merveilleuse. Je comprends pourquoi j'ai mis que 6 mois à comprendre. Il y a une vérité que l'on distribue en boucle dans toutes les églises de Pentecôte, en tous les cas. J'en profite pour vous dire que les vierges folles étaient des chrétiennes de Pentecôte, puisqu'elles attendaient le retour. en boucle, on répète, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que j'ai regardé dans plusieurs versions, il y a une version qui dit, ce n'est pas par l'armée, parce que c'est exactement le mot qui est en hébreu. Ce n'est pas par l'armée. Donc, vous voyez, même une armée puissante ne pourrait pas faire l'œuvre de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce verset, on doit l'aimer, moi il est souligné dans ma Bible, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence, on serait tous millionnaires, ce n'est pas pour ça que ça nous ferait gagner une âme de plus au Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, moi si j'avais de l'argent, si j'avais des sous, si j'avais des millions, ben c'est sûr, si. C'est ridicule. Mais avec ce que tu as, avec ce que Dieu veut que tu aies, parce que je peux vous dire que si vous aviez des millions, si nous avions des millions, je pense que peut-être beaucoup d'entre nous ne seraient pas là ce matin. On serait peut-être très loin du Seigneur. Et je crois que si Dieu a été intelligent pour ne pas exaucer ce genre de prière, eh bien, bénissez-le ce soir. Ça va peut-être changer votre façon de prier, mais croyez-moi, c'est une bénédiction que Dieu n'ait pas exaucé ce genre de prière. Alors il y a ce verset clé, c'est par le Saint-Esprit. Mais vous remarquerez qu'il lui faut un instrument. J'ai mis 6 mois à le comprendre. Il y a un instrument. L'instrument, c'est le chandelier. Le chandelier, symboliquement, c'est l'instrument du témoignage. Voilà, de la même manière que les hommes présentent, les deux hommes présentent les témoins. Exactement, c'est ceci. Comme le chandelier, comme l'huile, nous parle de quoi l'huile ? Du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des symboles, on les connaît. Mais Dieu a besoin de chandeliers. Alors, mon frère, ma sœur. Ou alors on dit, ben c'est bien, tout ce qu'il dit, c'est biblique. Bien sûr que je m'appliquerai. Vous voyez, j'ai demandé à Michael si je pouvais faire une petite allusion par rapport à la façon dont il a présenté la Sainte Cène. Les deux façons du chemin et le chemin d'Ésaïe 40, ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est normal, il apprend. Mais je veux dire, c'est quand même important de le souligner. Mais il y a un chemin à préparer, ce n'est pas Dieu qui le fera. Ne nous imaginons pas que c'est Dieu qui le fera. Les chandeliers tout en or battu, ben ça explique qu'on a des épreuves. Enfin, je pense qu'on en a tous, et on en aura encore, et Dieu en permettra des épreuves dans le couple, dans la famille, dans l'église, dans le monde. Dieu peut utiliser toutes les épreuves pour faire de nous ce chandelier d'une seule pièce, sans aucun mélange. Le chandelier, il était dans le lieu saint. Un chrétien, il ne doit pas passer sa vie dans le parvis, même si on a des beaux cantiques qu'on va rechanter tout à l'heure, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Il y a des chrétiens, ils ont passé leur vie dans le parvis, tout le temps en train de se laver. L'œuvre de Dieu, cela a à voir avec des croyants, des vrais croyants, des disciples qui vont dire oui, je veux être ce chandelier d'or pur. Amen. Je veux être un chandelier d'or pur. L'huile sainte ne peut venir de ces oliviers qui représentent bien sûr le Saint-Esprit, la parole de Dieu, parce qu'il y en a deux, ça peut représenter la parole et le Saint-Esprit. Mais il faut que les conduits, vous avez vu que même les conduits étaient d'or. Et que notre vie, notre communion avec Dieu doit être bichonnée pour que l'huile de l'esprit, la vie de la parole puisse se manifester. Vous savez, je vais vous dire quelque chose parce que je veux que vous compreniez que moi aussi je suis en train de comprendre certaines choses. Cet été, j'étais en train de prier. Cet été, j'ai passé mon temps à chercher Dieu parce que je savais qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Dieu m'a fait un reproche sévère et c'était bien. J'étais en train de prier, je lisais, parce que franchement, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je connais la parole. Mais justement, quel piège, mon pauvre, quel piège. Et je lis, vous voyez, sur la lumière, moi je peux vous faire, on peut rester jusqu'à ce soir 10 heures si vous voulez. Ça vous va? Ça vous va? Vite, je veux savoir. Et écoutez bien. Et je sentais que Dieu m'interpellait sur la lumière et sur la vie. Texte sur la lumière, et quand Jésus a dit, dans Jean 6, mes paroles, son esprit est vie. Et Dieu m'a dit, parce que tu ne te sanctifies pas suffisamment, tu apportes la lumière, mais tu ne peux pas apporter la vie. Je ne sais pas si vous faites la différence entre la lumière et la vie. Et ça fait 31 ans que, oui, je me suis appliqué, je ne vais pas non plus tout rejeter. Dieu m'a montré, c'est par son esprit, c'est clair dans ma tête, ça ne peut pas être plus clair, que j'apportais la lumière, On a besoin de lumière. Vous avez vu dans une salle combien c'est agréable, une salle qui n'a pas d'ouverture, d'avoir de la lumière. Mais les chrétiens et les pécheurs, les rétrogrades, et mais nous, moi, on n'a pas besoin que de lumière. On a besoin de vie. Et ce chapitre où le Saint-Esprit se manifeste pour lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, même la grande montagne, vous avez vu comment Dieu encourage son serviteur, qui es-tu, grande montagne, ça veut dire, écoute, des problèmes, t'en occupe pas trop, si mon esprit est là, moi je vais m'en charger des problèmes. C'est ça que ça veut dire en français courant. Ça vous rassure? Ben oui. C'est ça que ça veut dire. Et ne t'inquiète pas, même si vous n'êtes pas nombreux, voilà, Dieu est en train de lui dire, écoute, ne méprise pas les faibles commencements, il ne faut pas mépriser. Moi, je bénis Dieu pour les quelques exaucements qu'on a eus pendant le mois d'août, qui sont des vacances. Parfois, c'est terrible les vacances, comme ce pasteur qui me disait que tous les chrétiens de son église s'en vont. Je bénis Dieu de ce qu'on ait gagné des âmes pendant les vacances. C'est quand même une bénédiction. Mais mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu peut s'écouler du trône sur des chandeliers d'or pur. Il n'y a pas de mélange. D'ailleurs, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit pendant que je préparais. C'est dans les, je sais plus, je crois que c'est dans les psaumes. Quand il est dit, votre cœur est partagé, vous en porterez la peine. C'est écrit, je crois que c'est dans les psaumes. Votre cœur est partagé, vous en porterez la peine. Et c'est une question que je nous pose, nous qui sommes de vrais chrétiens. Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes levé tout à l'heure pour prendre le pain et le vin. Vous vous êtes levé pour prendre le pain et le vin? Vous le savez si vous vous êtes levé. Vous vous êtes levé? Donc vous êtes de vrais chrétiens. Est-ce que vous devez dire ce que moi je lui ai dit? J'ai le sentiment que ma lampe se vide. Ou est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur, moi je refuse d'être là quand tu vas revenir chercher l'église, parce que ça va être terrible. Mais est-ce que nous sommes à même, nous qui nous sommes levés pour prendre le pain et le vin, devant Dieu? C'est pas, moi je ne regarde pas. C'est devant Dieu qu'on se lève. Est-ce que nous nous sommes levés, comme Jérôme l'a demandé dans sa prière, ou M. Paulet avant que le culte commence, Seigneur, mais montre-nous le chemin. Ben le chemin, c'est à nous de le préparer. Alors je ne sais pas où vous en êtes. Moi je sais que cet été, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Et je ne regrette pas, ça m'est égal, ne venez pas me plaindre à la fin, c'était bien. Ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on est malheureux, et ce n'est pas parce qu'on rit qu'on est joyeux. La joie ne vient pas par le rire, la joie elle vient par l'onction. Et j'ai compris, il m'a fallu six mois, j'en ai honte. Pour comprendre que Zacharie chapitre 4 dépend des instruments du témoignage. Alors, ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un, il faut être rempli du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Mais que moi, je le sois. Vous savez, il vaut mieux qu'on dise à quelqu'un, de quelqu'un, il est rempli du Saint-Esprit. Plutôt que le gars dise, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, j'ai ce caractère, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit les autres qui disent, il porte vraiment du fruit. Qu'est-ce que vous préférez? On pourrait multiplier les exemples, c'est pas intelligent. Mais c'est quand même à dire. Jésus marche au milieu des chandeliers d'or. Et s'il trouve dans l'église des hommes, des femmes, que vous ayez quelques mois de conversion, ou que vous ayez des décennies de conversion, des hommes et des femmes qui disent, ma vie, je vais faire en sorte que ce soit un chandelier d'or pur. Je vous le dis, vous le savez, vous savez que c'est vrai. Le Seigneur ne marchera pas parce qu'on va lui dire, Seigneur, marche au milieu de nous, marche au milieu de nous. C'est même pas la peine de lui demander. Mais je peux vous dire que si nous entrons plus que dans le sang, plus que dans le parvis, mais que nous entrons dans le lieu saint, que nous aimons la présence de Dieu, parce que le chandelier, il était dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, regardez, vous regarderez, il n'y avait pas grand-chose. Et si nous purifions nos vies, et si nous disons « Oui, j'obéirai à tes commandements, ce que tu me montreras », parce que moi, vous voyez, il m'a fallu des décennies, mais vous ne pouvez pas savoir comment j'ai honte. Alors je crois que Dieu est souverain, mais je peux vous dire que Dieu m'a parlé. Vous voulez que Dieu marche au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ne répondez pas haute voix, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, moi je voudrais que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous ». Eh bien, croyez-moi, ça va nous coûter cher. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de plus beau prix, de plus grande joie que d'obéir au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se lever dans l'auditoire et me dire, Monsieur Go, il y a quelque chose de plus joyeux que de marcher entièrement avec le Seigneur? Eh bien, votre témoignage m'intéresse. Est-ce que vous pensez que lorsque Jésus a dit, mais demeurez en moi et je demeurerai en vous, vous avez vu combien à 13 reprises il reprend ce verbe actif pour que nous comprenions qu'il faut demeurer en lui pour qu'il demeure en nous. Moi, j'ai eu le sentiment, cet été, je le disais à ma femme hier soir, j'ai eu le sentiment, mais je vous le dis, ça a été comme quelque chose de physique, j'ai eu le sentiment d'être arraché d'un arbre, d'une branche, et d'être greffé sur un arbre. Ça m'a donné ce même sentiment. Et je pense à ce verset qui dit, mais si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Et si nous acceptons de mourir à nous-mêmes, si ce que nous chantons, parce qu'on a chanté des trucs forts, si ce que nous chantons, nous mettons, mais je veux le vivre, je veux être ce chandelier d'or. Le Seigneur, qu'on soit deux ou trois, ça suffit pour faire son œuvre. Mais au moins que soyons honnêtes, si vous êtes dans le péché, mais réglez cette affaire. On ne va pas nous vous poursuivre à la maison, ce n'est pas à nous de le faire. C'est à vous de dire, mais je suis un chrétien, ou alors un chrétien de nom. Mais je ne sais pas, que celui qui se souille, ben, se souille encore. Mais est-ce que ça vaut la peine de rester dans l'église et d'attrister le Saint-Esprit? Si vous voulez vous souiller, mais souillez-vous, ça c'est votre choix. Nous, on ne va pas vous juger, on vous aimera pareil, vous inquiétez pas. Et même Dieu vous aimera pareil. Mais c'est quand même le dernier avertissement dans la Bible, le dernier avertissement, que celui qui veut se souiller, se souille, et que celui qui se sanctifie encore. Et je pense que c'est une question d'honnêteté devant Dieu, où je pense que vous n'accepteriez pas que je prêche l'évangile si vous appreniez que je regarde des trucs porno à la télé. Est-ce que vous accepteriez, Monsieur Olé, vous accepteriez? Sérieusement, les frères, les anciens, là, vous apprendriez que je regarde des trucs porno à la télé? Vous accepteriez que je continue à prêcher, Jérôme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, mais non, mais il faut l'enlever, il n'a plus sa place, il faut le lui dire, mais il faudrait le faire. Et s'il y avait quelqu'un parmi nous, tiens, soit là, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire, comme ce musicien qui était sur l'estrade, qui priait et qui regardait des cochonneries à la télé. C'est ça le chandelier d'or, parce que moi, on peut faire un truc super sophistiqué, une prédication avec l'art oratoire. Moi, je peux y travailler, ça, si vous voulez. L'art oratoire, je peux m'y appliquer. Mais vous n'avez pas besoin d'un pasteur qui sache prêcher. Nous avons besoin d'une église purifiée où on prenne la décision. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Oh, c'est bien. Oh, M. Gou, il a changé cet été. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir à lui-même? Et je vous assure qu'il n'y a pas de plus grande joie. Je comprends pourquoi Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous assure, il m'a fallu arriver à 34 ans de conversion pour comprendre ce qu'était une joie parfaite. Non, mais j'en suis tout secoué. La joie, elle est dans la communion avec Dieu. Et il faut que l'or y soit, d'or battu, d'or pur. Dans le sanctuaire, tout ça, il y avait des instruments en bois d'acacia recouverts d'or pur. Bon, ça c'est l'humanitaire. Mais le témoignage, il doit être d'or pur. Est-ce que vous voulez avancer dans ce chemin? Préparer le chemin. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, préparer le chemin? C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut préparer le chemin du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, moi je veux préparer le chemin du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, moi je veux être un chandelier d'or pur? S'il y a quelqu'un? Ben moi oui, je vous le dis franchement. Est-ce qu'on peut se lever et chanter, mais à Jésus, Seigneur, je reconnais ta majesté. Vous vous rendez compte, vous savez ce que ça veut dire? Je reconnais ta royauté. Alors, ce que ça veut dire, je reconnais que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur des cieux et de la terre, ou est-ce que ça veut dire, je règne dans ma propre vie, Seigneur? Et s'il y a quelqu'un qui peut dire, mais règne dans ma vie.